Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits humains qui célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Universelle, mais d'où vient cette idée d'universalité? Nous allons le voir cette semaine grâce à un entretien avec Alfred Fernandez. Il est directeur du Collège universitaire Henri Dunant en Suisse. C'est une institution de formation en droits de l'homme en direction des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Cette fondation reconnue d'utilité publique travaille aussi avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNESCO, ou encore diverses ONG un peu partout dans le monde et notamment en Afrique. Vous savez presque tout, alors on peut commencer. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Quel est cet homme dont on parle quand on parle de droits de l'homme, homme avec un grand H?
Oui, alors on peut parler de homme avec un grand H. Dans d'autres langues, plutôt on dit humain, hein. Par exemple en espagnol ou en anglais. Hein.
En allemand aussi parfois, d'ailleurs, oui.
Hein. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est que toute personne humaine, tout être humain, par le fait de naître, il a des droits. Ce qui est important, c'est ce qui dit la Déclaration universelle, que par le fait de la naissance, nous avons une dignité et de droits qui correspondent à ce que nous sommes, à notre condition ou à notre nature.
Mais alors, d'où ça vient cette idée qu'il suffit de naître homme, humain, pour jouir de droits spécifiques? Qu'est-ce qui a fait penser que l'homme n'était pas une espèce animale comme les autres, finalement?
Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, à cette question, essaye de répondre la Déclaration universelle dans son article premier, qui est un peu comme la vision de l'homme, de l'être humain qu'elle pose. Et il dit « Nous sommes doués des raisons et de conscience ». Ce qui nous distingue effectivement des animaux, c'est la capacité de raisonner, d'avoir un raisonnement abstrait, et aussi d'avoir une conscience morale. Nous sommes responsables de nos actes. Un philosophe disait que seulement l'homme est capable d'assassiner. Un animal peut tuer pour manger ou même pour se faire une place au soleil. Mais l'homme a cette capacité redoutable aussi de détruire pour détruire parce qu'il a cette responsabilité vis-à-vis des autres.
Donc ça veut dire qu'on reconnaît à l'homme a priori des capacités, des potentialités qui le définissent finalement, qui le distinguent du reste des êtres de la nature.
Tout à fait, c'est ça la distinction. Et puisque nous sommes dans un contexte germanophone, Kant disait que l'être humain ne peut jamais être considéré comme un moyen pour quelque chose d'autre, il est toujours une fin. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un marchandage en disant, comme certains disent, « Ah non, mais je veux peut-être sacrifier 3 personnes pour qu'il y ait 30 ou 40 qui sont sauvées. Hein. » Ce marchandage ne peut pas être utilisé avec l'être humain. Chaque être humain vaut toute l'humanité.
Mais justement, cette idée-là, on lui a reproché d'être très européenne, parce que dans d'autres cultures, l'individu n'a pas la même place en tant que tel. Il fait surtout partie d'un groupe familial, clanique. Que répondre à ce reproche?
Le reproche, il est vrai. C'est-à-dire que nous avons une tendance, il y a eu une tendance dans le droit de l'homme, à être très individualiste, de ne pas considérer la réalité vraiment de l'être humain. Nous vivons grâce à une famille, à quelqu'un qui nous a donné la vie. Après, nous avons été dans une culture qui nous a éduqués. Et enfin, nous sommes extrêmement dépendants des autres. Et c'est bon, c'est positif. Victor Hugo disait que l'homme est solidaire et solitaire en même temps. Hein. Et on est solitaire, chacun est soi-même, mais en même temps, on est solidaire. On a besoin des autres, de cette société qui nous nourrit. Et il faut quand même se rendre compte que cela n'empêche en rien que chaque être humain vaut toute l'humanité. Parce que s'il a une valeur, c'est justement par ses qualités intrinsèques qui lui permettent justement d'être en relation avec les autres.
Vous écoutez écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Aujourd'hui, une rencontre avec Alfred Fernandez, directeur du collège universitaire Henri Dunant en Suisse. Alors, le concept a l'air de faire plus ou moins consensus désormais, puisque la plupart des États constitués ont ratifié les grands traités, les grands textes, les grandes conventions concernant les droits de l'homme dans le monde. Et pourtant, on voit que c'est loin d'être une réalité en général sur le terrain tous les jours, et notamment pour les femmes, qui ne sont pas des hommes comme les autres.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il demeure beaucoup des inégalités, beaucoup de discriminations, en premier lieu celles que vous évoquez, parce que dans beaucoup de cultures, encore aujourd'hui, on privilégie l'homme et on laisse de côté la femme. Je dirais qu'il faut bien se rendre compte que nous sommes dans un processus historique. Et le processus de droit de l'homme, comme nous le connaissons, actuellement, débute en 1948 avec la Déclaration universelle.
Ce qui est très très récent à l'échelle évidemment de l'histoire de l'humanité.
Exactement. C'est-à-dire que ça nous a pris au moins presque 6000 ans pour arriver à quelque chose d'un consensuel au niveau international. Et il a fallu, il faut bien le dire, les deux grandes guerres hein, qui nous ont fait 100 millions de morts à peu près pour réussir à se mettre d'accord. Donc moi je crois qu'il faut bien se rendre compte que nous sommes dans une étape de passage entre ce qu'on pourrait dire une affirmation formelle, voilà, on est d'accord, il devrait y avoir des droits, mais on n'a pas encore intériorisé, on n'a pas encore travaillé à l'intérieur des cultures pour s'approprier cela. Hein. Et ça c'est un travail qui est un peu même le travail, on pourrait dire semblable au travail de la moralité dans chaque être humain. Parfois, on sait qu'on ne doit pas faire les choses, mais on les fait. Ça, c'est les grands défis pour lesquels nous travaillons avec la formation en droit de l'homme, pour essayer de faire comprendre que là, on doit faire un peu plus. Et ce peu plus dépend en partie de ce phénomène que nous voyons déjà très présent en Afrique, c'est l'émergence d'une société civile, d'un contre-pouvoir civil qui a la capacité aussi de contrôler ce que les États font.
Est-ce que ce n'est pas déjà aussi un progrès que sur le plan intellectuel, aucun régime officiel, aucun État ne proclame son opposition aux droits de l'homme. Intellectuellement parlant, il n'y a pas d'État qui revendique les violations des droits de l'homme comme idéologie.
Pendant des siècles, on a massacré les personnes sans aucun problème. Il n'y avait aucune considération pour l'ennemi. L'ennemi, on le tuait ou on l'esclavisait. C'était un sujet, c'était un objet plutôt, pas un sujet justement.
Mais est-ce que c'est une réussite définitive? Est-ce qu'on ne peut pas penser que justement dans l'histoire à venir, la pensée puisse revenir sur ce qui peut sembler être un acquis?
Oui. Elle peut le faire. Regardez par exemple la question de la torture. Hein. Il semblait que la question de la torture était définitivement acquise. Or, lorsqu'il y a eu tout ce problème de terrorisme, on a commencé à justifier certaines pratiques qui sont vraiment de la torture.
Y compris donc par les gouvernements occidentaux qui étaient officiellement les fers de lance de la lutte contre la torture.
Tout à fait. Vous voyez, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de gens qui ont justifié un certain nombre des pratiques de ce type-là, pour ne citer que les États-Unis.
Un dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est Dieu.
Oui.
Et Dieu dans tout ça. Que faire quand on croit en des dieux divers? Que faire quand on ne croit en aucun dieu? Comment légitimer cette spécificité de l'homme, y compris lorsqu'on ne pense pas que c'est une création spécifique d'un dieu qui lui aurait accordé une attention particulière, par exemple? Comment se débrouiller intellectuellement avec l'universalité des droits de l'homme, avec ou sans dieu?
C'est clair que quand on a fait la Déclaration universelle, on a essayé de concilier beaucoup de points de vue Et quelqu'un comme Jacques Maritain, qui était catholique, avait dit « Il faudrait que dans ce premier moment, chacun le justifie comme il le comprend, c'est-à-dire par une justification religieuse ou par une justification laïque ou une justification philosophique. » Moi, je pense qu'il y a une justification philosophique purement rationnelle. Cette idée de que l'homme a une raison et qu'il a une moralité, elle est très claire, sans laquelle aucun système juridique, aucun système social pourrait vivre. Il y a un proverbe africain qui dit « Nous sommes tous coupés du même tissu hein. ».
Il y a une phrase dans un article que vous avez publié qui est assez parlante. Peut-être vous pourriez nous l'expliquer. « Moi, c'est moi parce qu'il y a toi ».
Oui, ça c'était un peu l'idée de la relation. S'il n'y avait pas toi, est-ce que je pourrais dire quelque chose ? Qu'est-ce que je vaux ? Je vaux quelque chose parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui me regarde, qui me comprend, hein, et pas d'indifférence. Et c'est ça, cette réalité de l'altérité, elle est fondamentale pour l'être humain. C'est pour ça que je vous disais l'importance de la culture. Nous ne sommes pas une île, nous ne vivons pas isolés. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que quelqu'un a été avec nous et nous a accompagnés depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et puis au-delà.
Moi, c'est moi parce qu'il y a toi, une phrase à méditer encore un petit peu. Un grand merci à Alfred Fernandez, directeur du Collège universitaire Henri Dunant en Suisse. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir écouté. Rendez-vous sur notre site internet tw.de/français pour la réécouter ou télécharger cette émission. Pour nous écrire, une seule adresse, français@dw.de, sans la cédille à français. Comme d'habitude, salut et à la semaine prochaine. Thank you.